Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
La plus cordiale des bienvenues à vous tous et à vous toutes à cette édition du 15 septembre. Oh, la belle journée! Je vous en dis pas davantage, mais c'est une belle journée qui est derrière nous maintenant et dont nous ferons le point avec Philippe Asselin dans quelques minutes à peine. Nous serons très goalball au cours des prochaines minutes parce que d'abord, on va s'entretenir avec un goalballeur, Bruno Haché, membre de la sélection canadienne de goalball, qui s'est incliné, on vous racontera les détails, mais qui se sont inclinés les Canadiens en quart de finale et qui voient leur tournoi s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai un copier-coller pour la sélection féminine, mais encore une fois, j'empiète sur le terrain de Philippe Asselin. Mais on ira le rejoindre donc à Rio pour faire le bilan de ces Jeux. Et le bilan, je dirais, d'une décennie et même plus de Jeux, parce que Haché en était à ses quatrième, j'allais dire 40e Paralympiade, ses quatrième Paralympiade, lui qui était à Athènes en 2004. Alors, point de référence avec lui dans 5 minutes à peine. Sinon, je disais que nous serons goalball. On poursuivra notre analyse de la discipline avec Nathalie Chartrand, qui est directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Elle suivra notre invité Bruno Haché. Et comme à l'habitude, on commence à s'y faire maintenant. En fin d'émission, nous irons rejoindre notre collaborateur sur place, parce qu'aujourd'hui, c'est Vincent Lochmann, le rédacteur en chef de Vivre FM, qui sera avec nous. Alors, j'ai vendu un ou deux punchs, j'en ai pris l'habitude. Maintenant, je pense que Philippe est habitué. Il s'en vient avec tous les résultats des 24 dernières heures. Vous ne m'en tenez pas rigueur, M. Philippe Asselin?
Oh, absolument pas, Alexandre.
Vous êtes d'une grandeur incomparable.
Deux médailles depuis qu'on s'est quitté hier. Deux médailles d'abord en cyclisme, alors qu'au contre-la-montre féminin T1 et 2, Shirley Gauthier de Toronto a gagné la médaille de bronze, tandis que sa coéquipière Marie-Ève Croteau a terminé sixième. Et une autre médaille en natation, ça va bien en natation, ouais, pour le Canada lors de cette quinzaine, au 100 mètres brasse féminin SB8, alors que Katarina Roxon a gagné la médaille d'or.
Médaille d'or.
Ouais, médaille d'or. Donc deux autres médailles pour un total de 20 pour le Canada. Sinon, hier, en goalball, tu l'as dit, le Canada qui s'est incliné en quart de finale au niveau masculin face à la Lituanie, 5-4 en double prolongation. Et défaite crève-cœur.
Ouais.
Et au niveau du quart de finale féminin, bien, le Canada a perdu 2-0 contre les États-Unis. Le rugby, hier, les hommes au rugby étaient en action pour la première fois lors de cette Paralympiade, alors qu'ils ont remporté leur premier match face au Brésil, 62-48. Zach Madel a conduit le Canada avec quand même une belle récolte à lui seul de 38 points.
Quand même. Donc, une entrée en matière des plus intéressantes pour l'équipe canadienne de rugby.
Exactement. Et là, maintenant, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé ce matin. Guillaume Wallet a terminé quatrième de la finale au 500 mètres masculin en athlétisme. En boccia, en quart de finale individuel, Allison Levine a perdu contre une Thaïlandaise, mm-hmm, par la marque de 3-2. En canot, Christine Gauthier a terminé quatrième dans sa finale en KL2 et en KL3. Erika Scarf de l'Ontario a terminé septième dans sa finale. Et nos deux Québécois se sont qualifiés, comme à l'habitude, en natation, alors que Benoît Huot a terminé quatrième de sa ronde préliminaire au 100 mètres libre masculin et Aurélie Rivard, elle a terminé première de sa ronde au 400 mètres libre. Les deux seront en finale ce soir. Sinon, en rugby, le Canada y est allé d'une deuxième victoire en prolongation, cette fois-ci contre l'Angleterre, alors qu'ils l'ont emporté par la marque de 50-49. En volleyball assis, le Canada a battu le Rwanda pour terminer 7e de ce tournoi.
Wow! N'empêche, et vous noterez beaucoup de résultats au pied du podium, 4e, 5e, 6e. On n'insistera pas suffisamment là-dessus. C'est tout aussi valable que... Enfin, quand vous faites partie du top 10, quand vous faites partie du top 25 même au monde, l'exploit réside là également.
Et présentement, on a Charles Moreau qui est en train de disputer un contre-la-montre au niveau du
cyclisme. En ce moment même.
En ce moment même. Et il est toujours dans le peloton de tête à égalité avec un Italien et un Allemand. Donc, il reste quelques kilomètres à cette course. On aura probablement le résultat au courant de l'émission.
Et à ce moment-là, on interrompt tout, Philippe, et tu nous retrouves dans le studio. Tu m'enlèves le micro et tu nous donnes le résultat.
J'en prends note.
À tout de suite. Et nous allons mettre la table maintenant à notre gros segment Goalball, alors qu'on ira rejoindre Bruno Haché un peu plus tard. Pour tout de suite, on s'entretient avec la directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, Mme Nathalie Chartrand. Mme Chartrand, bonjour.
Bonjour à vous.
J'imagine que vous avez suivi les compétitions avec beaucoup d'intérêt.
Effectivement.
Quoi penser de ces quarts de finale où le Canada a terminé finalement?
Des quarts de finale crève-cœur du côté des hommes. Écoutez, là, quand tu perds par un point en deuxième supplémentaire...
C'était dur pour eux et c'est dur en général, je dirais.
Ouais.
Toutes disciplines confondues.
Mais tu sais, c'est que c'était presque là. C'était 4-4, ils ont fait la première supplémentaire... Ils sont allés à la deuxième, puis malheureusement, bon, il y a un but qui a fini par rentrer de notre côté, là, mais quand t'es rendu là, c'est ça.
Mais chez les garçons, par rapport à ce qui était attendu, où est-ce qu'on se situe?
Il y a une partie qu'on aurait dû gagner.
Ouais.
Donc, au lieu de finir en quatrième place dans le tournoi à la ronde, on aurait fini peut-être en troisième et ils auraient joué contre une autre équipe que la Lituanie.
Ouais.
La Lituanie, là, c'est quelque chose. Ils sont forts, là. Ils sont très, très forts.
C'était mon autre question, c'est ça. Vraiment, dans l'élite mondiale, ils sont là, les Lituaniens.
Ouais, ils sont très forts. Fait que c'est sûr que... dépendamment où tu finis dans ton classement, où tu joues contre une équipe très forte, ou... Ils avaient joué contre eux, ils ont fini quatrième de leur classement. Puis là, ils se sont croisés avec le premier de la deuxième division.
Et ça illustre.
Eux, la Lituanie avait perdu aucune partie. Là.
Ouais.
Puis là, ils ont failli perdre seul contre le Canada. Mais bon, ils l'ont gagné. C'est ça qui compte pour eux.
C'est
ça qui est plate pour nous.
Oui, mais ça reste que... Non, mais ce que vous nous expliquez là, et moi, je viens tout juste d'en parler, ça illustre le fait qu'il n'y a pas que les médailles, il y a la qualité de la compétition se décline dans ce genre de nuances-là. Là, vous nous dites la Lituanie, c'est une des grosses forces en présence. Si on veut juste régler le cas là, du tableau masculin, c'est qui les autres pays vraiment là, qui font partie de la fine élite?
Il risque d'avoir le Brésil, surtout qu'ils jouent chez eux. Puis le troisième, là, tout est possible. Ça peut être la Chine, ça peut être les États, ça peut être... Je ne mettrais pas 5$ sur aucune des autres équipes.
D'accord.
Ça peut être interchangeable. Puis ce qui est le fun ou ce qui n'est pas le fun quand on joue des tournois à la ronde comme ça, c'est que tu peux, comme la Lituanie, là, ils auraient pu avoir gagné toutes leurs parties dans la ronde, dans
préliminaire.
La première ronde, puis là, perdre.
Ben, c'est ce qui aurait pu arriver, parce qu'on était en double prolongation.
Tu sais, dans le fond, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Exactement.
Et le Canada, au contraire, ils ont eu des bad luck, là.
Mm-hmm.
Dans leur tournoi à la ronde, ils ont perdu un match qu'ils n'auraient pas dû perdre du tout. Ça les a mal positionnés. Mais il aurait pu s'en sortir quand même s'ils avaient gagné contre la Lituanie. Là, il aurait pu se rendre en semi-finale. Puis là, en demi-finale, ben, il revient minimum avec la quatrième place au monde. Là.
Non, et vous disiez tout est possible, ça reste vrai.
Ouais.
Du côté féminin maintenant, les Canadiennes qui ont perdu contre les Américaines hier. 2-0. Est-ce qu'on est dans le même sentiment?
Ben écoutez, ça c'était moitié-moitié. Parce que les Canadiennes, quand elles jouent contre les Américaines, c'est leur bête noire, là. Une fois, c'est elles qui gagnent. La fois d'après, c'est les Américaines. La fois d'après, c'est les Canadiennes. Tu sais, ça s'interchange ça tout le temps. Puis là, ben, malheureusement, là, c'est les Américaines. C'est ça que je disais à tout le monde. J'ai dit, là, on va voir qui entre les deux qui veut le plus ou qui a le plus de good luck, là.
Ça prend toujours un peu de chance.
Oui, un peu de chance, ouais. Parce que des fois, là, tu fais un beau bord de ligne, le ballon, il roule tout le long de la ligne, il tape sur le poteau du but,
ouais.
Il rentre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça, là, je veux dire, écoute, là, quand il rentre là, des fois, t'es chanceux, il rentre à l'intérieur, des fois, t'es malchanceux, il est à l'extérieur.
Ouais.
Tu sais, ben, toi, tu te trouves chanceux quand il va à l'extérieur, quand c'est l'autre équipe qui a fait le tir. Puis tu te trouves malchanceux.
Et forcément.
quand c'est toi qui le lance, puis qu'il peut avoir à l'extérieur aussi. Oui, c'est malheureux parce que les Canadiennes avaient quand même gagné deux de leurs quatre parties. Elles sont arrêtées en quatrième, en quart de finale aussi à Londres, là.
On est au même niveau. Mais de ce que je comprends, il y a de quoi être fier des performances des deux équipes. Puis
oui.
C'est très prometteur pour la suite. Le temps file, Mme Chartrand. Moi, une question que je pose à tous les intervenants de votre statut qu'on reçoit à l'émission parce que j'ai un intérêt. Puis je pense que ça illustre aussi la vitalité d'un sport. Comment ça se porte le goalball? Est-ce que la participation est bonne? Au niveau, ben, enfin, à tous les autres niveaux?
Provincial et canadien?
Oui, exemple, oui.
Provincial, il y a de la place, il y a beaucoup de place encore de libre du côté féminin.
D'accord.
Ça, les femmes et le sport, c'est toujours un petit peu le même problème dans plusieurs sports. Du côté masculin, ça va bien, mais il y a toujours de la place à avoir des nouveaux talents. Au niveau canadien, c'est quand même bien. Il y a plusieurs jeunes là, qui arrivent, qui vont pousser sur les plus expérimentés. Là. Puis ça aussi, c'est le fun quand il y a plus, parce qu'on ne se le cachera pas. Du côté paralympique, tu sais, on n'a pas 300 là, qui essaient de faire l'équipe
provinciale. Ils sont combien? Ils sont combien à peu près?
Au niveau canadien?
Oui.
Oh! Sont peut-être une trentaine,
d'accord.
35 chez les hommes. Mais ça, c'est le fun parce qu'ils ont le choix entre 35. Au niveau québécois, ça, c'est moins bien là, parce que des fois, une équipe complète, c'est 6. Il y en a 6, mais on en prend juste 3 ou 4 dans l'équipe. Là.
Okay.
Mais ça serait le fun d'avoir 30, 50 potentiels.
Mm-hmm.
Fait que pour les entraîneurs, c'est plus le fun parce qu'ils peuvent vraiment choisir...
Forcément, monter des équipes du meilleur niveau, ben c'est ce qu'on fait en ce moment. Là. On fait découvrir, on ajoute une pierre supplémentaire à la découverte du sport, puis il y a certainement des gens à l'écoute qui pourraient avoir de l'intérêt. Je suis curieux, puisque vous êtes de l'Association sportive des aveugles du Québec, évidemment, vous vous intéressez pas seulement au goalball, même si c'est une discipline importante pour les non-voyants, elle est pratiquée exclusivement par eux. Vous pensez quoi de ces Paralympiques en général? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention?
Du côté des sports pour les personnes en handicapées visuelles,
ouais.
On a Guillaume Ouellette là, en athlétisme. Il a fini 9e au 1500 mètres. Puis là, il devrait courir, c'est aujourd'hui ou demain. Là. Lui, il n'a pas fini. Là.
C'était aujourd'hui, oui. Si je ne m'abuse, là, sa course est terminée. Ouais.
Ah oui? J'ai pas eu le temps de regarder. Fait que je sais même pas c'est quoi qu'elle fait. Et il y a Daniel Chalifour en vélo tandem aussi.
D'accord.
Qui va courir. Mais oui, c'est bien. Les jeux sont bien. Puis il faut pas oublier que ceux qui se rendent aux Jeux paralympiques, c'est la crème de la crème. Puis là, là-bas, il faut qu'ils déterminent qui va faire la cerise sur le Sunday. Fait que tous ceux qui sont là sont déjà excellents. Mais malheureusement, il y en a juste un qui finit avec la médaille d'or, puis il y en a un qui finit dixième. Mais déjà, en allant là,
ouais,
ils sont tous gagnants.
Ben pour, et c'est vrai pour tout le monde. Là. Quand ouais, vous atteignez ce niveau,
ah oui, que ce soit olympique déjà, ou paralympique, ouais, là, écoute, tu as des qualifications au niveau local, régional, provincial, national, international. Fait que, tu sais, il a fallu que tu te qualifies à plusieurs
paliers. Ben ça, j'achève.
Fait que... Bonjour. C'est ça.
D'accord. Ben écoutez, excusez-moi, on a eu un petit... les ondes se sont entremêlées. Ben écoutez, Nathalie Chartrand, merci infiniment de ces quelques minutes en notre compagnie. On va, bien sûr, nous garder un œil là-dessus. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. Merci encore, puis une bonne fin de jeu.
Merci à vous.
Vraisemblablement, ce ne sera pas possible de parler avec Bruno Haché. Alors, ce grand segment Goalball, ça va être un bon segment. Il est terminé, mais il ne sera pas agrémenté de la présence de Bruno, qui, comme je le disais, en était à ses quatrièmes Jeux paralympiques. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il pensait de cette édition de Rio, lui qui était à même de faire des comparaisons. Ce n'est que partie remise. De toute façon, notre série n'est pas terminée et on aura l'occasion de parler à des athlètes qui en ont vu d'autres. Parlant d'athlètes qui en ont vu d'autres, je prends quelques minutes pour revenir sur cette histoire qu'on a évoquée il y a de ça quelques jours. Ça a été largement présent dans les médias, les résultats du 1500 mètres aux Paralympiques. Les temps des athlètes qui ont gagné le T13 au para étaient supérieurs à ceux des Jeux olympiques quelques jours, enfin une semaine ou deux plus tôt. Et les médias s'interrogeaient à savoir, coudon, est-ce que les athlètes en T13 auraient pu remporter le 1500 mètres des Jeux? Et à ce compte-là, pourquoi n'y ont-ils pas participé? Ben, il y a des nuances importantes à faire. Effectivement, les temps du T13, donc d'il y a quelques jours, sont supérieurs au temps qui a valu l'or à Matthew Centrovich au dernier jeu de Rio. Centrovich, c'est un Américain. Il a couru le 1500 mètres en 3 minutes 50 pile, ce qui est un peu inusité, là, mais vous allez voir, le record aussi arrive pile, mais enfin, c'est une anomalie. Pas une anomalie, mais c'est un hasard. Pour ce qui est de nos trois, non seulement notre gagnant en T13, mais les trois meilleurs temps, ils étaient tous inférieurs, donc, à 3,50. Celui qui a gagné au para, c'est Abdelatif Bakka, l'Algérien, a couru en 3,48,29, donc presque un peu plus d'une seconde et demie plus rapide. L'Éthiopien Tamirou Demissé, qui a remporté la médaille d'argent, a fait 3 minutes 40-59. Et le Kenyan Henry Kirwa a fait 3,49-59, sans compter le quatrième, qui a même fait mieux que 3,50. Donc, tous ces temps-là sont supérieurs, effectivement. La nuance ou l'élément clé qui n'a pas été tant médiatisé, c'est que, pour une raison qu'on s'explique mal, enfin, les experts du 1500 mètres peuvent peut-être comprendre, là, mais pour le commun des mortels que nous sommes, le 1500 mètres des Olympiques a été l'un des plus lents de l'histoire, le plus lent depuis 1932. Ça s'expliquerait par une stratégie. C'est Matthew Centrovich qui a gagné, qui menait la course et qui a délibérément donné un pas lent à tout le peloton, qui ne s'est jamais réveillé et qui a continué de courir dans les traces de Centrovich, si tant est qu'on a réalisé donc ce 1500 mètres au dernier jeu en 3 minutes 50. Le record, la vraie marque appartient à Hicham Elguerrouj, qui, en 1998, a établi le record au 1500 mètres de 3 minutes 26.00. C'est quoi? 24 secondes plus rapide. Ou enfin, le dernier 1500 mètres de 2016 a été 24 secondes plus lent. C'est absolument, anormal et insensé. Et ça s'explique, semble-t-il, par une technicalité. Et ça explique également pourquoi nos quatre athlètes paralympiques ont mieux fait dans le 1500 mètres des paras. Et nous allons rejoindre notre collaborateur Vincent Lochmann, le rédacteur en chef de Vivre FM. Vincent, est-ce qu'il fait beau à Rio aujourd'hui?
Oui, il fait super beau. Et c'est vrai, on approche de la fin des Jeux et il y a déjà un petit air de nostalgie. Surtout là, je suis au cyclisme, à l'arrivée du cyclisme sur route. On est sur un site à Pontal, à côté du parc olympique, à une vingtaine de minutes. Et on est sur un site qui est extraordinaire, en bord de mer. Il y a une mer assez forte aujourd'hui. Du coup, tous les surfeurs sont sur la plage. Et il y a un énorme rocher. Les vagues viennent s'échouer là sur la plage avec les surfeurs. Et il y a un temps magnifique. Et c'était la course sur route. Et j'étais venu voir le résultat du Français Joël Janot, qui a 52 ans. C'est un des vétérans de notre équipe de France. Il a fait une très belle carrière en athlétisme, mais aujourd'hui, il est en cycliste sur route. Et voilà, c'était une belle course, c'était un beau moment ici, à Pontal, sur cette arrivée du cyclisme sur route. Alors on a eu Joël il y a 3 minutes, là. Joël Janot, le Français, sur la ligne d'arrivée, et qui nous a dit, vraiment, il avait souffert ses derniers Jeux paralympiques. Hein, Joël, 52 ans, il souhaite maintenant encadrer des jeunes, il est responsable de club du côté de Bordeaux, et il nous a dit que cette course était vraiment très difficile, avec un parcours assez risqué. La crainte de l'équipe de France là, et de l'encadrement du cyclisme, c'était que les coureurs se blessent sur le parcours qui est accident. C'est vraiment un parcours très difficile avec des épingles à cheveux. Enfin, vraiment, c'était très, très difficile, cette course.
Vincent, je vous interromps une demi-seconde parce que, justement, parlant de cyclisme, Philippe, on a un résultat qui vient tout juste de tomber pour un cycliste canadien.
Et oui, Charles Moreau qui repartira de ses Jeux de Rio avec une deuxième médaille de bronze. Alors, lui qui a terminé troisième de cette course aujourd'hui au contre-la-montre.
Alors, médaille de bronze donc pour Charles Moreau. Désolé, Vincent, de l'interruption. Et désolé pour ma prochaine question parce que j'aimerais qu'on reste en bon terme. Mais alors qu'on vient d'annoncer une médaille canadienne, je suis curieux de voir comment sont reçues les performances françaises jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est conforme à ce qui est attendu de la délégation française au complet?
Non, c'est pas du tout conforme.
Non?
C'est pas du tout conforme. On partait sur 45 médailles. Là, maintenant, à l'heure où on parle, je sais pas très bien où on en est. Attendez, je vais regarder en direct là. Où est-ce qu'on en est? Les Canadiens, vous avez, 20 médailles au total. Et les Français, on n'en a que 18. On est très, très loin.
Et 21 objectif, maintenant. 21 maintenant avec celle qu'on vient d'ajouter. Mais comment c'est reçu, sans vouloir pour vrai, là, de manière très sportive, comment c'est reçu? Je sais, ici, les attentes sont pas si grandes. La fierté est uniforme, là, ou enfin, elle n'est pas seulement dans les résultats. Est-ce que chez vous, c'est pris avec un peu plus de drame?
Il y a quelque chose qui a vraiment changé cette année aux Jeux de Rio. C'est que pour la première fois, la télévision française diffuse les Jeux en intégralité. Et du coup, les Français, le grand public, bien au-delà de la question des médailles et des palmarès, a découvert ces champions, l'investissement, les personnalités, le charisme de tous ces participants. Et j'allais dire, bon, c'est pas pour s'excuser, mais finalement, même s'ils font pas de médailles, on leur en veut pas. Et je crois qu'il y a une grande admiration parce que les Français découvrent les incroyables capacités, les incroyables performances de ces athlètes. Je pense en particulier à la natation. On a vu le Benjamin de l'équipe de France, Théo Curin, qui est en train de devenir une star chez nous en France. Il a 16 ans, il a amputé des bras et des jambes à la suite d'une méningite quand il était enfant, et il s'est battu dans le bassin. Et c'est typiquement quelqu'un qui rêvait d'avoir une médaille. Il en a pas eu, mais je crois que vraiment le grand public est loin de lui reprocher de pas avoir cette médaille, de pas avoir le palmarès. Je crois qu'il y a une vraie empathie, par exemple pour Théo Curin, qui est vraiment un garçon formidable, mais pour tout ces champions.
Vincent, je suis content d'entendre ça parce que c'est quelque chose dont on essaie, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant ici aussi dans notre émission. Et pour ce qui est de la télédiffusion des Jeux paralympiques, c'est une grosse victoire de la France sur le Canada parce que nous, on n'en est pas là. Même en web diffusion ici, c'est pas évident. Donc tant mieux si ça se passe comme ça. Je suis ravi de l'apprendre. C'est déjà tout le temps qu'on avait, Vincent. C'est toujours un plaisir, un grand merci, et on va se retrouver ultérieurement dans cette série.
Merci beaucoup et au revoir à Montréal. Bonjour à tout le monde là-bas.
Au revoir. Très bon joueur, Vincent Lochman, rédacteur en chef de Vivre FM. Et c'est vrai qu'on se souhaite que ce soit télédiffusé dans un avenir rapproché. Philippe Asselin, donc, ta première annonce en direct,
oui,
ça s'est bien passé.
Oui, très bien.
C'est une victoire pour toi aussi.
Absolument.
Donc, Charles Moreau, première victoire, enfin, premier podium, je devrais dire, médaille de bronze.
Ce qui fait en sorte que le Canada se retrouve maintenant avec un total de 21 médailles, toujours en 13e position au classement total des médailles. 6 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 6 médailles de bronze. Le top 5 est toujours dominé par la Chine avec 172 médailles, suivi de la Grande-Bretagne avec 101 médailles. L'Ukraine et les États-Unis, tous les deux, ont 83 médailles. Et l'Australie ferme le top 5 avec 54.
Moi, je fais jamais de prédiction, mais je te le dis, la Chine va remporter le tableau des médailles cette année.
Il y a de très, très bonnes chances. Ouais. Et si on regarde ce soir au niveau des Canadiens en action dans l'ordre de leur finale, eh bien, il y a de l'athlétisme et de la natation. En athlétisme, Diane Roy va être en finale du 5000 mètres féminin T54. Et Brett Lakatos, lui qui a déjà 2 médailles lors de ses Jeux paralympiques, sera du 800 mètres masculin finale T53. En natation, on en a parlé en tout début d'émission. Benoît Huot au 400 mètres masculin et Aurélie Rivard au 400 mètres libre féminin ce soir. Deux très belles chances de médailles. Et demain, bien de la natation, de l'athlétisme, de la voile, du tir à l'arc. Et tout ça, donc, demain à 15h.
Au menu, donc, évidemment, dans ton résumé de début d'émission demain à 15h. Merci beaucoup, Philippe Asselin.
Plaisir.
Alors, un grand merci également à notre invité aujourd'hui, Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. On espère qu'on se reprendra avec Bruno Haché. L'un dans l'autre, il a toute notre affection. Les goalballeurs canadiens qui ont terminé à l'étape des quarts de finale. Je m'appelle Alexandre Coupal. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve demain.